Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h04, 4 minutes de temps additionnel pour Génération Sport. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, on a plein de trucs à dire. Alors malheureusement, nous n'avons pas d'invité, mais le plus important c'est que l'équipe est au complet. Cédric est avec moi aujourd'hui, comment tu vas Cédric ?
Je suis fatigué.
Fatigué, grosse semaine de sport.
Grosse semaine de sport, et c'est fait pour durer tout le mois de février.
Ouais, on est gâté au niveau de l'actualité.
Pour le mois de février, au niveau sport.
Ouais, on aura l'occasion de revenir sur les événements à venir. Et il vient de débarquer dans les studios de Radio G pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Alex est avec nous ce soir, comment tu vas ? Il ira mieux si je lui ouvre son micro. Salut Alex.
Salut Max, salut à tous. Effectivement, grosse semaine, gros week-end, avec notamment donc, cette victoire des Ducs. Incroyable. On y reviendra plus longtemps dans la suite de l'émission.
On sent, soufflé, on sent que t'as couru. Ouais.
Effectivement, je me suis pressé pour venir. Le sport n'attend pas. Et puis bah voilà, très heureux de vous retrouver. Max, je crois que c'est ta première émission
c'est ça,
de 2022.
Première de l'année, ouais.
C'est vrai, je vous souhaite une excellente année. J'ai pas eu beaucoup de temps pour faire l'émission. En attendant qu'Alex reprenne son souffle, on va essayer d'évoquer le programme pour cette émission. Donc évidemment, on fera le 1-2. Comme Alex, tu viens de le dire, on parlera de la victoire en Coupe de France des Ducs d'Angers parce que c'est une très très grosse actu pour le sport angevin. On reviendra plus en détail sur l'Open d'Australie et la victoire finale de Rafael Nadal qui nous a encore sorti un tournoi exceptionnel. Et puis en fin d'émission, on reviendra sur le foot et le SCO. Principalement, on va évoquer la situation du club angevin avec également le mercato hein, puisque la période des transferts hivernaux s'est éteinte hier, pardon. Et puis, s'il nous reste du temps, on parlera de l'Euro concernant le handball avec une équipe de France qui a été un petit peu décevante. Si on a le temps, on y reviendra. Et donc, Alex, on va débuter avec le 1-2, tout simplement.
Et oui, c'est le retour du 1-2. Cette fois-ci, on va bien le faire à deux. Et puis, on va commencer par, évidemment, les actualités locales. On va entamer par le handball. Le SCO qui se prépare tranquillement à retrouver le chemin du championnat après une trêve internationale d'un mois due à l'Euro 2022. Pour rappel, les dirigeants scoïstes avaient placé à la tête de l'équipe Denis Tristan, l'ancien membre de la fameuse équipe des Barjots, qui doit donc désormais former un duo d'entraîneurs avec le Tunisien Issam Tej, qui lui n'a pas encore obtenu tous ses diplômes. Les Angevins ont donc pu profiter de cette trêve pour appréhender ce nouveau coaching. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela va prendre encore un peu de temps. Après une victoire étriquée contre l'Anester, pensionnaire de N1, le SCO a encore du travail après sa lourde défaite subie vendredi dernier contre Cherbourg 38-28. Les Normands étaient pourtant une des deux seules équipes que les Noirs et Blancs avaient réussi à battre lors de la première partie de saison. Pour savoir si les Angevins seront fin prêts à un retour à la compétition, la réponse sera donnée jeudi prochain avec la réception de Sarrebourg à 20h30 à Jean-Bouin.
Et on va continuer avec du football et on va parler du SCO d'Angers, des résultats dans un premier temps. La semaine dernière, le club angevin a fait deux matchs en Ligue 1 puisqu'ils n'ont pas la chance de continuer la Coupe de France. Les Angevins ont d'abord reçu 3, c'était dimanche dernier, dimanche 23 janvier. Les Angevins ont galéré mais ils ont finalement fait le boulot, victoire 2-1 du SCO avec un doublé sur penalty de l'expert angevin en la matière, Thomas Mangani. Et puis la semaine a continué pour le football, malheureusement pour le SCO, c'était un peu moins positif avec une défaite à domicile contre le dernier du championnat, contre Saint-Étienne. Et puis là, il va y avoir un gros calendrier hein, pour le SCO d'Angers. Vendredi, le SCO se déplace au Vélodrome pour affronter Marseille. Ensuite, il y aura la réception de Strasbourg, qui est une équipe qui marque énormément de buts sur cette saison de Ligue 1. Et puis après, Angers se déplacera à Nice. Donc les prochains matchs peuvent être décisifs pour les Angevins. Et si on regarde le classement, c'est vrai que le SCO est un petit peu redescendu, mais stagne à la moitié de tableau, à la 12e place.
S'ils nous font une purge, comme j'ai pu le voir contre Saint-Étienne...
Oui, tu étais en direct.
Direct.
C'était pas un beau match, apparemment.
Non, franchement, tu te demandes ce qu'ils sont venus faire, quoi. Première mi-temps, quand t'es rendu à défendre contre Saint-Étienne à 4 contre
Saint-Étienne, là, parce que Saint-Étienne restait sur 6 défaites de suite. 7 défaites de suite, si on compte le derby. Et puis beaucoup de Cannes.
Ils sont venus, ils ont fait le taf, Saint-Étienne, ils ont mis la pression, ils sont allés chercher le but.
Moi, justement, je voyais bien une victoire à Saint-Etienne parce que bah, je les voyais se relancer clairement face à Angers. Angers qui était, voilà, milieu de semaine, qui n'était pas forcément en
ah
forme.
Ah oui, non, là, c'était le match.
Mais en plus, ouais, ça devait être.
Limite, on aurait mis les plus jeunes, ça aurait fait peut-être la même chose. Quoi.
Ouais, enfin, les, y les avait 19,
pas,
ouais.
Moi, je n'ai pas senti en première mi-temps de motivation, quoi. Enfin.
On pourra reparler après peut-être plus tard déjà du mercato puisque il y a pas mal de choses à dire sur ce qui s'est passé sur la
après,
fin.
Après, c'est justement pas lié à ce fameux mercato.
Il y a le mercato, il y a la CAN également.
La CAN
donc
aussi,
on peut
oui.
souligner que Stéphane Bocken et Enzo Ebos, même s'ils ne jouent pas trop, ils sont même d'ailleurs même pas remplaçants, ils sont souvent réservistes avec le Cameroun. Ils sont toujours en lice. Donc ils sont en demi-finale contre l'Égypte ou le.
J'ai plus le. Il me semble que c'est Sénégal-Égypte.
Sénégal-Égypte. Et l'autre, le quatrième, c'est.
Et ben voilà, bonne question.
Bonne question, on trouvera ça. Et puis surtout, voilà, surtout, Sofiane Boufal qui a marqué 3 buts déjà depuis le début de la CAN, qui a été éliminé avec le Maroc.
Alors,
samedi dernier.
Je me suis trompé, c'est Cameroun-Égypte et Sénégal-Burkina Faso. Voilà.
Donc on verra si Bauken et Boss sont sur le banc. Mais en tout cas, voilà, en sachant qu'en attaque, il y a pas mal de manquements, on verra comment ça se passe. Et puis, donc voilà, on est un peu revenu donc sur l'actualité du SCO. On va retourner au basket maintenant. Le AB qui s'approche tout doucement de la fin de sa première partie de saison, une première phase qu'ils sont en train de boucler en terminant la première place. Vendredi dernier, les Angevins n'ont pas flanché à l'occasion de la réception de La Rochelle à Jean Bouin. En s'imposant 77 à 62, les joueurs de Sylvain Delorme ont décroché leur 17e victoire de la saison et conservent ainsi leur avance en tête de la poule A. Ce soir, l'Étoile entame sa série de 5 matchs de suite avant la fin de la première phase qui est prévue pour le 18 février. Et donc ce soir, ils affrontent Rennes à partir de 20h. On vous tiendra évidemment au courant de l'évolution du score tout au long de l'émission. De leur côté, le calendrier des filles de l'UFAB est beaucoup plus calme. Après 2 semaines sans jouer, les Angevines reprenaient le chemin du championnat ce samedi contre Tarbes, un match important qui a tourné en faveur des Tarbaises en prolongation après un match assez serré. Cette défaite finalement concédée 77 à 73 n'est pas forcément de bon augure pour les Angevines qui doivent patienter jusqu'au 19 février avant de retourner sur les parquets de LFB. Et puis à Cholet, les Maugeois ont confirmé leur rebond en championnat vendredi dernier sur le terrain de Fos-sur-Mer 80-69 grâce à leur 6e victoire de la saison. Les hommes de Laurent Villa sortent donc de la zone de relégation en remontant à la 16e place.
Et on va ouvrir tout de suite la page actualité concernée au Duc d'Angers. On aura l'occasion d'en reparler plus en détail tout à l'heure après la première pause musicale. Mais on va d'abord évoquer les résultats. En Ligue Magnus tout d'abord, puisque les Ducs avaient un match le 28 janvier. Donc c'était vendredi dernier face à Briançon. Et les Ducs nous ont sorti une belle performance avec une victoire finale 5 buts à 4. Donc au niveau du classement de la Ligue Magnus, les Ducs d'Angers sont toujours second. Les Dragons de Rouen sont revenus à 1 point des Ducs d'Angers à la 3e position. Donc de ce côté-là, ça chauffe un petit peu.
C'était pas forcément une belle victoire hein, parce que ça s'est joué au pénalty.
Oui, c'est ça.
Pour moi avoir eu mes infos voilà, par des gens qui étaient sur place, tu sentais qu'il y avait quand même une partie qui était déjà dans la tête pour la finale et ça s'est ressenti sur la glace, ce qui a expliqué un peu la qualité de ce match.
Et justement, t'en parles de la finale puisque 2 jours après, les Ducs d'Angers jouaient contre les Rapaces de Gap pour cette finale de Coupe de France et on a le droit à un scénario complètement fou, mené d'abord 2-0 par les Rapaces du Gap, puis 2-1, 2-2, 3-2, 4-2 pour les Ducs. Ben, on se dit que le match est terminé, sauf que les Rapaces sont revenus 4-3, 4-4 et puis en finale, les Ducs s'imposent en prolongation avec ce 5e but et donc décroche cette victoire en Coupe de France. Comme j'ai dit, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, on peut déjà penser que la saison des Ducs est réussie.
Et match dès ce soir pour le championnat.
Effectivement, pareil, on vous tiendra évidemment au courant de l'évolution du score.
Voilà,
on
est justement contre qui les Ducs jouent ce soir.
Anglais.
Et, ben voilà. Et apparemment, le calendrier s'annonce chargé dans les prochains.
Pour février, il y a les matchs en retard qui vont être rattrapés. Il y a les matchs de saison régulière. Donc, ouais. Ça va être un gros championnat, enfin une grosse saison qui arrive là.
Et puis un petit dernier mot au niveau du SO Cholet, le club de National qui a gagné ce week-end contre Créteil 3-2. Tous les buts ont été inscrits en première mi-temps avec donc côté Choletais les buts de Ruffo, NJK et Lo. Au classement, Cholet remonte un petit peu du ventre mou avec donc cette 8e place. Il leur reste quand même un match en retard à jouer par rapport à toutes les autres équipes, ce sera contre 7. Et voilà, en tout cas le SOC qui est à 9 points du podium. On va enchaîner avec les actualités internationales. Je vais prendre la main tout de suite, hein, pour vous parler de handball. La semaine des Bleus fut forte en émotion pour les joueurs de Guillaume Gilles après la défaite humiliante samedi 22 janvier face à l'Islande. Les Bleus étaient dans l'obligation de battre le Danemark mercredi dernier pour espérer rejoindre le dernier carré. Dominés pendant toute la rencontre, les anciens experts ont renversé les champions du monde danois en toute fin de match pour finalement s'imposer avec la plus petite démarche, 30-29. Le rendez-vous était donc pris pour le vendredi suivant avec une demi-finale contre la Suède qui avait un air de déjà-vu. En effet, les Scandinaves avaient battu les Français en demi du dernier mondial en Égypte l'année dernière au terme d'un match qui était complètement à sens unique. Vendredi dernier donc, l'équipe de France démarrait bien la partie avec un 6-2 d'entrée de jeu, mais les Suédois, emmenés par leur très bon gardien Palika, recollaient et prenaient même l'avantage à la pause 17-14. La deuxième mi-temps se traduisait par une poursuite des Bleus au score et les Bleus et Jaunes conservaient un avantage de 2 buts jusqu'à la dernière minute. Ces dernières secondes étaient d'ailleurs très tendues avec une récupération bleue qui permettait de revenir à 34-33 et à 15 secondes de la fin, nouvelle récup française et met le portier suédois Palika, écœurait Ludovic Fabregas et offrait à sa sélection une deuxième finale d'un tournoi majeur en 2 ans. Abattu, les Bleus donc devaient affronter le Danemark dimanche pour une médaille de bronze qu'ils n'auraient pas démérité. Malheureusement, les Bleus se sont inclinés en prolongation 35-32 et pour la grande finale, c'est finalement la Suède qui l'a emporté face à l'Espagne 27-26.
Et on va ouvrir la grosse page consacrée au football, hein, sur l'actu mondiale et internationale. On va d'abord revenir sur la Ligue 1 puisque la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission de Génération Sport. On va donc revenir sur le week-end d'il y a 2 semaines, la 22e journée de championnat parce qu'il y avait des gros matchs et eu des gros résultats. Cette journée a commencé par un derby entre l'Olympique Lyonnais et Saint-Étienne. Et c'est finalement Lyon qui l'a emporté 1-0. Brest a fait tomber Lille 2-0. Marseille a fait un gros match et a battu Lens 2-0. Même score entre Metz et Nice en la faveur des Niçois. Clermont a battu Rennes 2-1. Nantes a battu Lorient 4-2. Angers, comme on en a parlé tout à l'heure, a gagné face à 3 2-1. Montpellier a battu Monaco 3-2. Bordeaux a battu Strasbourg 4-3 dans un match complètement fou. Et puis enfin, le Paris Saint-Germain a étrier Reims 4-0. Et puis ce soir, il y a un autre match de Ligue 1, un match qui compte pour la 14e journée. C'est le match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Il avait été reporté des suites des incidents que vous connaissez, dont on a là très largement évoqué. Voilà, malheureusement, ce sera un match à huis clos, mais qui a quand même une importance capitale. Et puis ce week-end, il y a eu de la Coupe de France et on connaît donc les affiches pour les quarts de finale. Il y a eu quelques sensations, on pense notamment à Bergerac qui a éliminé Saint-Étienne ou encore l'OGC Nice qui a réalisé l'exploit d'éliminer le Paris Saint-Germain au tir au but. Et donc les matchs se joueront le 8, 9 et 10 février prochains et nous aurons droit à Monaco face à Amiens, à Bergerac face à Versailles, à Nantes face à Bastia et puis on aura un très gros choc entre Nice et Marseille. Et puis on va clore cette page football international avec, comme on en a déjà parlé, la Coupe d'Afrique des Nations. Alors il y a eu des controverses mais le tournoi existe toujours et la compétition n'est pas terminée. Donc demain à 20h nous aurons la première demi-finale de ce tournoi qui opposera le Burkina Faso face au Sénégal et puis jeudi prochain nous aurons le match entre le Cameroun et l'Égypte.
On va enchaîner maintenant avec une actualité qui va prendre de l'ampleur dans les prochains jours puisque c'est J-3 avant le début des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. On ne peut pas vraiment dire que l'effervescence se fait ressentir dans la capitale chinoise, en dépit des contraintes sanitaires très importantes et un accès au public qui sera très limité. Mais en tout cas, l'équipe de France se prépare à ces deux semaines de compétition de sport d'hiver. Jeudi dernier, les porte-drapeaux français ont été officiellement désignés. Pour les Jeux Olympiques, ce sont donc la skieuse Tessa Worley et l'athlète de ski freestyle Kevin Roland qui ont été choisis pour brandir l'étendard tricolore. Et pour les Paralympiques, ce sera le biathlète Benjamin Davier qui agitera le drapeau bleu-blanc-rouge lors de la cérémonie d'ouverture prévue pour les paras le 4 mars prochain.
Et on va parler maintenant tennis avec l'Open d'Australie qui s'est achevé cette semaine. Et on va d'abord parler du tournoi simple mesdames, pardon, avec une victoire finale de la numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty devant l'Américaine Danielle Collins. Ashleigh Barty qui remporte à la même occasion son troisième grand chelem, pardon. Et puis du côté des simples messieurs, alors j'ai failli dire l'Open d'Australie. Oui, l'Open d'Australie. Je me mélange, excusez-moi. on avait vécu avec l'équipe de Génération Sport tout ce qui s'était passé autour de l'affaire Novak Djokovic, est-ce qu'il allait pouvoir jouer, est-ce qu'il n'allait pas pouvoir jouer. Il n'a finalement pas joué et c'est Rafael Nadal qui a remporté le tournoi. C'était très compliqué pour l'Espagnol qui était en finale face à Medvedev. Nadal a perdu les deux premiers sets, mais le match s'est déroulé et s'est terminé en 5-7 avec une victoire finale de l'Espagnol qui gagne par la même occasion son 21e titre du Grand Chelem et qui dépasse ses deux concurrents historiques qui sont Roger Federer et Novak Djokovic.
On en reparlera un petit peu donc de ce.
Et on a eu quand même une victoire française.
Et oui, Mladen Nedovic qui a remporté avec le Croate Ivan Dodig le double mixte. Donc voilà, il s'était aussi à souligner en sachant évidemment qu'il y a eu les bonnes performances d'Alizé Cornet et de Gaël Monfils. On termine avec une actualité qui date un petit peu pour ceux qui s'y connaissent. Mais voilà, nous on n'a pas eu d'émission pendant deux semaines, donc on en parle. La semaine passée, un combat très médiatisé a fait beaucoup parler outre-Atlantique et puis surtout dans le monde entier entre deux personnalités connues des fans de MMA en France à Anaheim dans la banlieue sud de Los Angeles. Le combat tant attendu entre Francis Ngannou et Cyril Gann a vu le franco-camerounais l'emporter au point au bout de 5 rounds qui ont été très disputés. Le champion du monde des poids lourds sortant conserve donc sa ceinture UFC après avoir battu le français qui connaît ainsi quant à lui sa première défaite en MMA. Celui qui est surnommé Bon Gamin aura dominé quand même les deux premiers rounds avant que son adversaire plus robuste ne retourne la situation dans les trois derniers. Voilà pour toute l'actualité. Voilà, c'était très chargé, ça a duré assez longtemps. Toute l'actualité donc sportive, locale et internationale. On reviendra après la pause musicale pour parler des Ducs, pour parler de tennis et pour parler également un peu de mercato.
Oui, et en pause musicale, on va tout de suite s'écouter Eminem avec son titre Not Afraid. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll catch you. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them, but you won't take the sting out these words before I say them. Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. When I say I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me, so fuck the world, feed it beans. It's gassed up, everything's stopping me. I'ma be what I set out to be, without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. Knowing fans are bust, don't try to ask him why or how can he. From infinite down to the last relapse album, he's still shitting. Whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse, he's married to the game. Like a fuck you for Christmas, his gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, everybody, come take my hand, we'll walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. Let me know that you're not alone. I'll love if you feel like you've been down the same road. And cut the crap. I shouldn't have to rhyme these
these words in the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting crowned, you're getting capped. Into the fans, I'll never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last we lapsed. CD was aired, perhaps I ran them accents into the ground. Relax, I ain't going back to that now. All I'm trying to say is get back to clap, clap. Cause I ain't playing around. It's a game called circling, I don't know how. I'm way too up to back down. But I think I'm still trying to figure this crap out. Thought I had it mapped out, but I guess I didn't. This fucking black cloud still follows me around. But it's time to exercise these demons. These motherfuckers are doing jumping jacks
I'm
now.
I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, everybody, come take my hand, come take my hand. We'll walk this road together through the storm. Whatever weather, cold or warm, just let me know that you're not alone. All of it, you feel like you've been down the same road. And I just can't keep living this way. So starting today, I'm breaking out of this cage.
I'm standing up, I'ma face my demons. I'm manning up, I'ma hold my ground. I've had enough, now I'm so fed up. Time to put my life back together right now, now.
My decision to get clean, I did it for me. Admittedly, I probably did it subliminally for you, so I could come back a brand new me. You helped see me through, and don't even realize what you did. Cause believe me, you, I've been through the ringer, but they can do little to the middle finger. I think I got a tear in my eye. I feel like the king of my world. Haters can make like bees with no stingers and drop dead. No more beef flingers, no more drama from now on. I promise to focus solely on handling my responsibilities as a father. So I solemnly swear to always treat this room like my daughters and raise it. You couldn't lift a single on it. Cause the way I feel, I'm strong enough to go to the club or the corner pub and lift the whole liquor counter up. Cause I'm raising the bar. I shoot for the moon, but I'm too busy gazing at stars. I feel amazing and I'm
not afraid. I'm not afraid to take a stand. Take a stand. Everybody, everybody, come take my hand. Come take my hand. We'll walk this road together through the storm. Whatever weather, cold or warm, just let me know that you're not alone. Holler if you feel like you've been down the same road.
De retour dans les studios de Radio G pour la suite de votre émission sportive. Tout de suite, donc, c'est Génération Sport. Vous êtes avec nous depuis 20h. On est donc de retour. Cédric en parlait, donc, cette petite pause musicale qui a été concoctée par Max était une passe décisive non voulue pour...
évidemment qu'elle était volontaire.
évidemment.
Ça a été une passe complete.
Ouais, c'est ça.
Disons que je voulais tirer au but, j'ai raté ma frappe, mais elle tombe dans les pieds de Cédric qui va pouvoir concrétiser.
Et donc, oui, puisque Eminem sera à la mi-temps du Super Bowl.
Entre autres, oui.
Ouais, ouais, c'est ça. Et semaine prochaine, d'ailleurs, émission spéciale dans Génération Sport. Ouais. On peut peut-être en parler vite fait, Cédric.
Sur émission où on parlera
de ça.
Super Bowl, ça c'est sûr. Peut-être émission avec invité, du coup. Peut-être avec les Yankees. Peut-être l'occasion aussi de réinviter le SCO Rugby. C'est en cours là, donc en tout cas sûr qu'on fera une longue page Super Bowl à cette occasion. Donc, voilà.
Également, je vais préciser également que on vous avait évidemment parlé de l'émission avec Amandine Brossé qui était prévue donc pour aujourd'hui. Ça a été annulé donc hier, mais on ne perd pas espoir pour que en mars prochain on puisse recevoir la championne de France de 400 mètres. Et puis on va faire un petit point sur l'actualité chaude avec l'EAB qui est actuellement mené. On rappelle que les joueurs de l'Étoile qui sont en déplacement à Rennes. Ils sont menés 26 à 18 dans ce début de deuxième quart-temps. Et puis ce soir, donc Max là, en a parlé, c'est l'Olympico, hein, le match reporté, avec beaucoup d'absents. Donc les compositions sont tombées du match, avec beaucoup d'absents du côté de l'OL. Je vais donner donc les compos du côté de l'OL. C'est vrai qu'on bricole un peu comme on peut, avec Lopez dans les buts, une défense à 3, Dubois, Boateng, Loukeba, un tandem au milieu avec Mendes et Cacré. En piston, on aura Gusto et Enrique, et en soutien de Cherki qui sera en pointe, on aura Shaqiri et Emerson qui va donc jouer beaucoup plus haut pour ce match. Et puis du côté de l'OM, c'est à peu près du classique avec un 4-1-4-1 avec Lopez dans les buts, une défense Lirola, Saliba, Keita Char et Luan Perez. On aura donc Camara en sentinelle. On aura également donc au milieu de terrain Under, Guendouzi, Rongier, Luis Enrique et Dimitri Payet qui sera en pointe. Voilà pour donc l'actu chaude. Le match des Ducs n'a pas encore commencé, je crois. Messieurs, dites-moi si je me trompe, c'est à quelle heure ?
Normalement, il commence dans une minute, mais à mon avis...
C'est 20h30.
Ils vont, 20h30. Du coup, ils vont présenter...
Il y avait présentation du titre, donc soit c'est déjà fait, ou soit ça va vraiment se faire là, donc le match débutera un petit peu en décalé.
Et d'ailleurs, la transition est toute faite pour ce match. C'était un événement très attendu dans la saison du sport angevin, cette finale de Coupe de France des Ducs d'Angers qui se déroulait donc à l'Arena Ice de Cergy Pontoise. Un gros résultat donc pour les Ducs qui décrochent leur troisième Coupe de France de leur histoire. C'était un gros événement, messieurs, on a tous un peu suivi ça un peu à la télé puisque c'était diffusé notamment sur pas mal de canaux. Messieurs, tout simplement, cette finale, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Déjà rappeler que ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas eu un titre.
Ouais, c'est ça, déjà, c'est
Angers,
important.
Ça se confirme tous les 8 ans, à peu près, un titre. Mmh.
Pour un club très important du hockey sur glace français.
Ouais, maintenant, ouais, on gère quand même ce statut voilà, d'être dans l'élite. Mais ouais, non, une finale qui a été attendue, hein, qui a été la première finale depuis voilà, l'ère Covid en plus. Puisque voilà, les autres avaient été annulés. Qui s'est organisé un peu aussi dans la douleur, puisque normalement, ça aurait dû être à Bercy. Finalement, à cause de cette fameuse jauge, ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Une semaine près, on aurait pu le faire à Bercy. Et je crois que ça aurait été encore une plus grande fête du hockey. Mmh. Mais voilà, donc la solution trouvée aussi était très bien, hein, puisque... Il y a eu à peu près, je crois, minimum 500 Angevins qui ont pu assister à cette finale, entre les différents COP aussi qui étaient présents.
D'ailleurs, tu étais au départ, Cédric,
des
Ducs qui partaient le matin pour ça.
Voilà, ils sont partis le samedi à midi, ouais. Histoire d'arriver sur place, de prendre possession des lieux, de faire les derniers réglages avec les derniers entraînements. Voilà, oui, bah. Un départ qui a été attendu par une vingtaine de supporters du PAC Angevin, un nouveau COP qui s'est créé tout juste et qui voilà a voulu encourager à leur manière le départ des Ducs. Donc c'est vrai que forcément là on a pour ceux qui avaient envie de suivre la finale, la pression voilà elle est montée à partir de ce moment-là et puis arrivé 15h, on était tous devant nos postes pour ceux qui étaient sur place et ceux qui étaient sur place voilà. Là, je pense que la route a dû être longue, puisque voilà, c'était. Enfin, il y a eu un travail mis en place aussi par l'équipe des Ducs pour que tout le monde puisse y aller, soit par bus, soit avoir des places. Enfin, c'est dans des conditions comme ça compliquées de jauge entre gérer le nombre de places par club, les places des différents partenaires, enfin tout ça. C'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de places, donc ça c'est à souligner. Et voilà, pour tout ce qui était en amont et le match en lui-même, c'est un scénario incroyable.
Fou, ouais. Enfin,
comme je l'ai dit, pour faire une belle finale, il faut être deux et les gaps à pas démériter. Enfin, au-delà de ce score voilà, qui ne joue à pas grand-chose, une belle finale, il n'y a quasiment pas eu de prison. Enfin, il y a dû y avoir deux, voire trois fautes pendant les trois premiers tiers, et il y a juste une double expulsion dans la prolongation. Donc, non, une finale de qualité. Quoi.
Ouais, un scénario rêvé, parce que ouais, c'était justement un scénario qui était haletant tout au long de la partie. C'était un kiff pour vous, messieurs, de cette finale?
Moi, contrairement à Cédric, j'ai pas pu la suivre en direct, mais j'avais le téléphone avec les flash infos, les flash buts, et comme je disais pendant la chronique, c'était que à 2-0, je me dis bon, c'est dommage, mais c'est fichu. Puis là, je me dis 2-2, 3-2, 4-2, bon, c'est fini. Et après, je revois 4-4 et je me dis que c'est un scénario complètement exceptionnel. Et au final, on remporte cette belle et magnifique finale. Et ouais, ça fait du bien, comme tu disais, Cédric, 8 ans après le dernier titre, ça fait du bien. Et surtout, moi, je repense à l'interview qu'on a faite avec Vincent Urca il y a quelques semaines de
on
ça.
On l'avait annoncé.
De un, on l'avait annoncé. Et de deux, lui nous disait que c'était leur objectif de la saison de décrocher un titre. Et donc, c'est fait et c'est super pour eux. Et c'est super puisque, voilà, ces dernières années, les Ducs prennent une place de plus en plus importante dans le paysage du hockey en France. On pense à la Ice Park, hein, qui a été une très grosse construction sur Angers et qui permet maintenant à un plus large public de venir découvrir les matchs de hockey. Et voilà, avec une victoire en Coupe de France, bah, j'espère que ça va permettre à encore plus de gens de venir découvrir le hockey parce que c'est un vrai sport et un sport dans lequel on est très très bon à Angers.
Ouais, et puis au-delà de ça, c'est le scénario en soi, il était pas étonnant parce que les dernières confrontations entre Angers et Gap en termes de score, ça a toujours été serré. Hein. La dernière confrontation, c'était à domicile à Gap et ça avait fini sur un 5-4. Donc finalement, ce scénario de match serré était pas si étonnant. Moi, en tout cas, je m'y attendais. Quoi.
Ok. Bah ouais, c'est vrai. Puis moi, surtout, ce que j'étais frappé, parce que c'est le côté un peu. Je parlais vraiment du scénario qui était intéressant et puis surtout qui est kiffant pour les Angevins, c'est que il y a ce but magnifique de Romain Gabory qui est en prolongation et qui est un but en or en fait qui donne la victoire au Duc.
Qui est historique en plus du club.
Ouais, c'est vraiment un gars qui est là depuis des années au club. Et son but, si les auditeurs peuvent aller le voir sur Internet.
Sur notre page Facebook, il y a le replay de ce but.
Parfait.
Ouais.
Et du coup, ouais, non, un but incroyable en pleine lucarne par rapport en tout cas aux autres buts, en tout cas globalement de la partie, c'était moins spectaculaire que ce dernier but qui est magnifique et qui donne la victoire.
Les deux buts de Gap pour revenir à 4-4 sont. Surtout le deuxième, ils sont quand même beaux.
Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment une partie très agréable pour les Ducs. Et la suite, messieurs, est-ce que vous voyez les Ducs justement est-ce que ça aura à la fois, ça peut avoir des conséquences physiques, parce que voilà, on le disait, ça va enchaîner les matchs, et puis ça peut aussi être de la confiance pour la suite de la saison.
On va le voir déjà ce soir, mais ce soir, s'il y a une défaite, je serais pas
étonné.
Pas forcément étonné, parce que bon, voilà, mine de rien, le retour à Angers, voilà, c'est fait dans la nuit, du dimanche à lundi. Je crois qu'ils sont arrivés vers 1h. Derrière, il y a eu célébration.
Ouais, décoration par.
Et le lendemain, ils ont été reçus à la mairie pour recevoir une médaille individuelle, une présentation du titre au maire. Je sais pas si c'était dans la matinée ou si c'était dans la journée. Mais je pense qu'il y a eu jour off le lundi dans tous les cas.
Ouais, et puis aujourd'hui,
en tout cas,
ils reprennent déjà
de glace. Il fallait reprendre ce matin, forcément, pour se préparer pour le match de ce soir. Donc, c'est vrai que je sais pas quand est-ce qu'est le prochain match, mais.
Ça enchaîne beaucoup, là.
Ça va enchaîner. Et ouais, il y aura peut-être un contre-coup. Après, ça peut être aussi un méga boost. En vue des playoffs.
On a vraiment vu les Angevins, en tout cas dans les célébrations, qui étaient hyper soulagés, hyper contents vraiment d'avoir remporté cette Coupe de France. Moi personnellement, je pense que ça peut être vraiment un bon regain de confiance. Je sais pas ce que t'en penses, Max.
Ouais, mais de toute façon, peu importe la suite. Hein, vraiment, comme on le disait, c'est là la saison est déjà réussie pour les Ducs. Mais moi, je pense que ça va être un boost pour eux déjà, je pense l'objectif c'est de se qualifier pour les playoffs. C'est très bien parti. Mais surtout qu'ils peuvent faire quelque chose pendant ces playoffs. Même si c'est vrai qu'on voit qu'en championnat, par exemple, Grenoble qui a une avance considérable, une équipe comme Grenoble ou même comme le Gap, on l'a vu, ou Rouen, c'est des équipes qui sont encore très très dures à aller chercher. Mais là, j'espère que les Ducs vont avoir un surplus de confiance grâce à cette victoire et qu'ils vont tout casser pendant les playoffs.
Après, c'est surtout. Ce qui va être important, c'est d'aller chercher cette première Magnus. Et c'est vrai que si cette année, ça ferait le doublé, ça serait historique pour le club. Mmh. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais cette victoire en Coupe de France nous qualifie pour la Coupe d'Europe l'année prochaine.
Ouais, la Coupe continentale.
Mmh. Et donc,
c'est la deuxième Coupe d'Europe
Ça veut dire que ça va être costaud la saison prochaine.
Et tant mieux.
Et on va surtout avoir beaucoup de matchs intéressants.
Exactement. Ça va être.
Et puis bon, c'est bien parce qu'on a été élu. Angers,
oui,
la meilleure ville où il fait bon vivre.
Une fois de plus.
Donc voilà, on a dans la même semaine, on a on
est que des bonnes nouvelles. France, Angers. On est la meilleure ville de France. Voilà, donc, voilà.
Et c'est pas étonnant que Génération Sport soit dans cette ville.
Évidemment.
Donc, non, mais
va falloir, les messieurs, il va falloir que notre melon.
Non, mais voilà, en tout cas, enfin. Ça va amener du public de l'extérieur pour la ville aussi.
Et puis
ça va faire du bien à tout le monde au final.
Si on rajoute à ça la semaine du festival Premier Plan, ça a fait une super semaine pour mine de rien, ça a fait une vraie bonne semaine pour Angers.
Qui a été beaucoup mis en avant en tout cas ces derniers temps. On va changer du tout au tout avec un autre sport, un autre pays et d'autres enjeux également, puisque donc ce dimanche c'était également la finale de l'Open d'Australie, une finale qui opposait le Russe Daniil Medvedev à l'Espagnol Rafael Nadal, et c'est finalement au bout de 5 heures de combat que l'Espagnol a remporté donc son 21e titre de Grand Chelem. Donc l'exploit est entre guillemets double avec voilà cette remontée, puisque Rafael Nadal a été mené 2-7 à 0 avant de revenir à 3-7 à 2. On sait que l'Espagnol, je crois, vient d'avoir 37 ans l'année dernière. Et donc, surtout, le 21e titre de Grand Chelem qui, détrône, en tout cas, dépasse Djokovic et Federer. Messieurs, même si c'est Nadal, ça reste un gros exploit ou ça reste... est-ce qu'on a banalisé, est-ce qu'on peut banaliser une telle performance ou ça reste un énorme exploit?
Non, parce que la finale, enfin moi j'ai vu surtout la dernière heure parce que ça avait été compliqué le samedi, voilà, période aussi du Royal Rumble, on couchait à 6h du mat, le match je crois commençait à 10h, donc pour tout suivre c'était un peu compliqué, mais ouais j'ai pu voir la dernière heure. Je pense pas qu'on peut le banaliser parce que c'est sur une surface où il est pas forcément à l'aise de base.
C'est que son deuxième.
Il me semble que ça faisait 12 ou 13 ans qu'il avait gagné l'Open d'Australie. Donc c'est une très très grosse performance.
Deuxième, ouais.
Son deuxième.
Il avait quand même quelqu'un en face, qui est dans la relève un peu du tennis. Donc, il y avait tout le scénario pour faire une belle finale. Franchement, même. Dans le dernier tie-break, c'était pas joué, hein.
C'était pas gagné.
On a vu qu'il a quand même douté. Non, au final, je pense pas qu'on peut banaliser cette victoire. Le chiffre, on peut peut-être le banaliser. Si ça avait été à Roland-Garros, effectivement, là, vous voyez, ça passerait un petit peu inaperçu. Mais là, le fait que ce soit en Australie, ça change un peu la donne sur la façon de voir cette victoire.
Ouais, mais surtout que quand on regarde je regardais justement en détail le tournoi de Rafa. Je l'appelle Rafa puisque c'est mon ami.
Tu le remercieras d'avoir fini à 15h pour qu'on puisse voir le hockey.
Bon, je lui envoie un message juste après, ça marche. Mais en quart de finale, par exemple, il perd déjà 2-7 face à Chapovalov. Donc on se dit, si il perd 2-7 en quart face au 14e mondial, est-ce qu'il va avoir les cannes et est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout? En demi-finale, il perd juste 1-7 contre Berrettini. Mais c'est vrai qu'il commence cette finale par un 6-2, il encaisse un 6-2. On va se demander, même si on sait que c'est l'un des plus grands de l'histoire de ce sport, est-ce que avec l'âge qu'il a, on sait que l'Open d'Australie, ça n'a jamais été son tournoi préféré, est-ce qu'il va réussir à s'en remettre? Et puis, troisième set, 6-4, ensuite 6-4, puis ensuite 7-5 lors du cinquième set. Une fois de plus, et surtout là... T'en parlais de la différence avec Roland-Garros. Roland-Garros, c'est sa surface, c'est son tournoi, c'est le meilleur tennisman de l'histoire de cette compétition. Mais là, l'Open d'Australie, c'est une vraie démonstration de force qu'il fait face à un Medvedev qui est deuxième mondial d'ailleurs, je crois, qui est l'un des meilleurs joueurs de tennis au monde.
Et qui a impressionné lui aussi pendant ce tournoi.
Qui a un peu pété les plombs, hein. Il me semble que c'était pendant sa demi-finale ou quart de finale où il a un peu mal parlé à l'arbitre. Mais grosse performance de Rafael Nadal qui pour le coup gagne en dehors des terres parisiennes de Roland Garros Et ouais, c'était incroyable.
Finalement, je revenais de blessures et de Covid en plus.
Ouais, moi c'est ça qui m'a impressionné le plus.
Qui peut jouer sur le fait
que
c'est impressionnant.
On peut pas dire qu'on a entendu beaucoup parler de Nadal à part donc l'année dernière, justement à Roland Garros l'année dernière. Nadal, effectivement, il a donc il a un certain âge dans le tennis mondial et c'est vraiment, enfin d'avoir cette condition physique, d'avoir plusieurs matchs marathon comme ça, et on sait que c'est pas facile, et de faire une finale où il a les ressources mentales et physiques d'aller chercher comme ça le match, moi je trouve ça assez impressionnant, et grand bravo, et justement à Rafa qui, enfin pour moi l'exploit il est là surtout physiquement et mentalement d'avoir réussi à renverser Medvedev.
Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Rafael Nadal aurait gagné si Djokovic avait été présent. Bon bah la réponse est on n'en sait rien et c'est même pas une question à se poser. Je pense que Djokovic a l'occasion de reporter d'autres tournois du Grand Chelem, d'autres Open d'Australie.
Ça risque d'être compliqué en tout cas, mais
ouais. D'ailleurs,
s'il veut pas se vacciner,
est-ce qu'on peut peut-être revenir dessus cette polémique autour donc de ce vaccin. Enfin, ce vaccin, justement, ce non-vaccin de la part de Djokovic. Votre opinion, messieurs, sans dire voilà, si on est anti-vax ou pro-vax.
Non, bah, de toute façon, on l'avait déjà expliqué.
Ouais, on l'avait un peu expliqué rapidement.
Mais
c'est peut-être ça, la suite de sa carrière qui est peut-être menacée à court terme, je veux dire, pas forcément à long terme. On espère que le Covid sera plus là.
C'est surtout, je pense, mais bon, j'ai envie de dire, ça a toujours été ça avec Djoko. C'est son image, quoi. Un coup, voilà, on va dire, c'était un peu l'enfant gâté, insupportable sur les cours, vis-à-vis des arbitres, vis-à-vis des adversaires, enfin, qui était pas aimé du public. Il a su changer, et c'est bizarrement, quand ça a été le cas, c'est là où il a réussi à bien se révéler en termes de victoire, tout ça. Et là, il y a eu ce nouveau couac qui, voilà, après, bon, il y a sa part des choses. Il y a aussi, moi je pense, une part de responsabilité de AO, puisqu'ils n'ont pas été très clairs vis-à-vis des règles d'intégration vis-à-vis de lui pour ce tournoi-là. Ensuite, bah forcément, l'Australie a fait appliquer ses règles. Il y a eu d'autres joueurs qui voulaient le faire, qui n'ont pas pu le faire pour les mêmes raisons.
Notamment Pierre Gerber.
Voilà, donc ils ont accepté de jouer le jeu, ils ont... ils sont pas venus, ils ont pas fait de scandale. Là, c'est juste, voilà, ce qui est dommage, c'est que, bah, voilà, il s'est déplacé et que, bah, on s'est rendu compte que les preuves fournies, apparemment, étaient pipées. Donc, c'est plus ça qui est compliqué. Ouais. Et on verra bien pour Roland Garros comment ça va se passer, mais pour l'instant, il serait pas éligible à venir.
On suivra ça de près. Est-ce qu'on attend pour une petite pause musicale? On va sûrement l'écourter pour terminer à temps. Max, du coup, je te laisse la main pour la présenter rapidement.
Oui, et justement, on va s'écouter une musique de Wiz Khalifa et on va écouter Black and Yellow.
Soon as I hit the club, look at them hoes' face. Hit the pedal once, make the floor shake. Sway inside, my engine roaring. It's the big boy, you know what I paid for it. And I got the pedal to the metal. Got you niggas checking game, I'm balling out on every level. Hear them haters talk, but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for them, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah. Bitches love me cause I'm fucking with their best friends. Not a lesbian, but she a freak though. This ain't for one night, I'm shining all week, ho. I'm sipping Clico and rocking yellow dye.
I miss so many rocks up in my watch. I can't tell what the time is. Got a pocket full of big faces. Throw it up to say, nigga, that I'm with Taylor. Yeah. De retour sur Radio G pour la suite et fin de votre émission sportive Génération Sport. On est donc de retour avec Max et Cédric pour la suite donc de votre émission sportive. On va maintenant parler un peu de football. C'est vrai que ça fait un peu longtemps. On va parler du SCO et plus précisément du mercato. On reviendra peut-être un peu plus tard si on a le temps également sur l'ensemble du mercato et les gros transferts qui ont eu lieu notamment récemment hein, sur la fin du mercato. Ça a été pas mal chaud dans la journée d'hier. On va revenir sur le SCO. Alors d'abord, je vais dresser un peu un bilan des départs et des arrivées. Au niveau des départs, il y a donc plusieurs prêts. Il y a donc Paul Bernardoni et Sadia Tchoub, qui ont été prêtés à Saint-Etienne. Farid Elmelali a été prêté à Pau. Antonin Bobichon a été prêté à Nancy. Franck Magri, qui est un petit jeune du SCO, qui a été donc acheté par l'ESC Bastia qui d'ailleurs a eu quelques problèmes administratifs pour inscrire le joueur, et puis surtout ça a été un départ assez commenté, c'est celui de Bilal Brahimi qui a été donc vendu pour 7 millions à l'OGC Nice. Bilal Brahimi qui donc est déjà été un élément offensif du SCO assez important, assez prometteur, et qui donc part au bout de 6 mois puisqu'il avait donc été acheté par le SCO au dernier mercato. Et puis au niveau des arrivées, seulement deux joueurs sont arrivés au niveau du SCO. C'est donc Nabil Beltaleb, qui est donc, on en a parlé vaguement, mais c'est quand même un gros renforcement au milieu de terrain pour l'ancien joueur de Tottenham et de Schalke 04. Et puis Marine Jakolic, qui est donc un joueur croate qui vient de Sibelić donc en Croatie, et qui était déjà à donc 10 buts et 5 passes décisives en dans le championnat croate, voilà, donc qui pour le coup était pas tellement connu du public français. Et puis surtout il y a eu la grosse rumeur Fulgini hier, et finalement ça ne s'est pas fait pour pas mal de raisons. Bref, messieurs, c'est un peu le bazar, on va dire, pour être poli. Au niveau du SCO, il y a pas mal de départs, en sachant qu'il y a la CAN, il y a des joueurs qui peinent à revenir, il y a des joueurs qui sont pas forcément en forme. Cette saison, cette deuxième partie de saison du SCO, elle s'annonce compliquée. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, on sait pourquoi. De toute façon, ils ont fait ça. Il y a pas d'argent au SCO. Enfin, ouais. Il y a de l'argent, mais c'est compliqué, donc bah ouais, il y a un gros dégraissage. Et encore, les prêts, est-ce qu'ils vont être honorés, parce qu'il y a eu aucun prêt en tout cas avec option d'achat.
Non, mais surtout, mais c'est à mon avis, c'est enfin pour à court terme, c'était surtout pour la masse salariale justement, comme tu en parlais.
Oui, mais bon, ça, enfin, les prêts, ça va être bien pour 6 mois, quoi, de savoir effectivement alléger la masse salariale, mais derrière, ils vont revenir au club, donc. Je sais pas si c'est en plus, surtout au mercato d'hiver, qui a été quand même assez calme hein, dans l'ensemble. Il n'y a pas eu de gros transferts. C'est plus quelques joueurs qui cherchaient du temps de jeu, quoi. Mais ouais, ça va forcément affaiblir le club. Donc, quand on voit les dernières performances, déjà qui étaient compliquées, bah, ça va être dur, hein, je pense. Hein, ça. Mmh. Et mine de rien, ça pousse derrière. Entre Saint-Etienne qui essaye de remonter, Bordeaux qui recrute, mais pareil, eux, ça va être compliqué. Donc l'idéal, c'est toujours d'être devant eux. Parce que bon, Bordeaux, est-ce qu'à la fin de la saison, ils vont pas être relégués aussi administrativement vu les soucis financiers? C'est passé l'année dernière, ça, je pense pas que ça va passer deux années de suite. Donc. Ah, ça va être un peu compliqué, ouais, cette fin de saison.
Toi, Max, est-ce que t'es plutôt pessimiste ou optimiste ?
Je suis pas pessimiste en vue de la première partie de saison des Angevins. Hein, ils ont fait le boulot, et puis quand on sait que leur objectif c'est le maintien, je pense que les dirigeants ont réfléchi comme ça. Voilà, on avait besoin d'argent, donc quitte à laisser partir, je pense à Bernardoni, un des cadres de l'équipe, en prêt pour 6 mois, pour récupérer un peu d'argent avec un peu moins de masse salariale à payer. Voilà, je pense qu'ils se disent bon bah on a fait le gros du boulot. Maintenant, avec ce qui nous reste, on peut normalement attraper le maintien. Mais ouais, comme l'a dit Cédric, c'est pas encore joué. Et bah, j'espère pour les Angevins que, et pour la direction qu'ils ont pris les bonnes décisions. Parce que si le SCO devait être amené à jouer les barrages ou même pire, à être directement relégué en Ligue 2, bah là, la direction, je sais pas si elle resterait, puisque déjà il y a des envies de vente de notre cher président qui a encore eu des problèmes avec la justice. On parle d'un racheteur indien, il me semble, du côté du SCO. Donc voilà, je pense que la deuxième partie de saison risque d'être compliquée et risque d'avoir pas mal de rebondissements au niveau du club.
Il y a eu aussi la décision du tribunal des prud'hommes aussi qui est tombée
pour l'affaire Piqueux.
Pour l'affaire Piqueux, oui.
Je crois que c'est du coup 3, le SCO doit 3 millions.
Oui, je crois que c'est ça, ouais.
3 millions à Olivier Piqueux, donc ça c'est encore de l'argent à dépenser.
C'est l'argent supplémentaire.
Donc ce que je propose, c'est qu'on fasse une cagnotte pour aider le SCO.
Moi j'ai 20 balles.
Si j'ai 20 balles, j'ai que 2 700 000 moi. On fera une cagnotte litchi puis on s'arrangera entre nous.
On va organiser un SCO event.
Moi, messieurs, pour mettre un peu sur le sujet, moi, mon inquiétude pour cette deuxième partie de saison, c'est l'animation offensive, parce que c'est vrai qu'on a bien parlé en début de d'émission, c'est que on s'est fait pas mal chier contre Saint-Etienne. C'était un peu le cas contre Lorient. Bah, après, on était un moins pendant très longtemps, mais voilà, il y a le match contre Troyes, on l'a gagné, bon, grâce au penalty, et donc on a eu les départs en attaque. Potentiel, en tout cas remplaçant, on a eu Sadat Youb et même Ali, même s'ils jouaient pas trop, ça reste quand même des potentiels renforts. Bilal Brahimi, enfin c'est assez incompréhensible. Après, bon, on peut comprendre la volonté du joueur et du SCO. Il y a des intérêts mutuels partout.
7 millions à l'heure actuelle, le SCO pouvait pas refuser, malheureusement.
Clairement, c'est ce que je dis. Mais après, dans l'effectif, ça laisse des trous. Jakolic, donc la recrue. J'avais entendu parler. Magri, donc le jeune qui pouvait pousser pour avoir une place en tant qu'avant-centre. Apparemment, donc ça a pas séduit les dirigeants scoïstes. Et puis derrière, si tu ajoutes à ça, donc Baoken, qui n'est pas là parce qu'il est à la canne. Après, il va revenir évidemment, mais bon, il n'était pas non plus en grande forme. Bouffal, qui va revenir, mais apparemment il met du temps à revenir avec Unai. Fulgeni est pas en forme, mais on a failli le vendre, ça c'est encore plus fou. Donc on se sera retrouvé avec là encore moins de monde. Et donc Mohamed Elichaud, qui pareil pour moi n'est pas tellement en forme. On a soit personne.
On a réussi à le conserver à ce mercato. C'était pas forcément gagné s'il y avait une grosse offre.
Ouais, c'est ça.
À mon avis, il partait.
Le seul joueur qui est en forme au SCO actuellement, enfin moi je trouve, c'est Bouffal, et c'est le seul qui est capable d'un peu dynamiter cette équipe.
Et surtout il a fait une très grosse canne.
Il a porté un peu son équipe. Donc moi personnellement, j'ai du mal à trouver comment le SCO va réussir à avoir de la production offensive. Après, on a des gros atouts. On a Petkovic qui est très bon. On a une défense à 3 qui marche plutôt bien. Cabot en piston à droit qui est bon aussi. Voilà, le duo Ben Taleb et Mangani qui va être pas mal aussi. Ça va être intéressant à voir. Mais moi, mon inquiétude, c'est vraiment la production offensive qui va, à mon avis, peiner en deuxième partie de saison.
C'est vrai que tu parles de Mohamed Alichaud. C'est vrai qu'il a fait un début de saison tonitruant. Mais c'est vrai que
le tout début,
mais après voilà, on s'en doutait un peu, c'est un gamin qui a 17 ans. Et donc forcément qu'il allait pas rester au top toute la saison. Heureusement, je pense que c'est une bonne chose quand même qu'on l'ait gardé, que le SCO ne l'ait pas vendu, parce que ça reste un joueur extrêmement prometteur et qui risque d'avoir une importance
cet été. Ça va être dur de le conserver.
Voilà, c'est ça. Est-ce que et puis de toute façon il va partir à un moment ou un autre, mais espérons pour le SCO qui, s'il part cet été, bah au moins qu'il fasse voilà une bonne fin de saison et qui permette au SCO de, comme tu l'as dit, être le poids offensif qu'on voit pas trop ces dernières semaines, quoi.
Après, peut-être aussi, donc on parlait de la forme des joueurs au niveau récent. C'est vrai que peut-être que la fin, enfin, en sachant que on gardera cet effectif-là jusqu'à la fin de la saison, ça peut peut-être aussi aider les joueurs à trouver une dynamique et à se mettre des objectifs pour la fin de saison.
Pourquoi pas aussi compter sur l'équipe des jeunes, hein.
Pourquoi pas
faire revenir voilà des jeunes U21, U19 qui Donc on a une très belle génération de joueurs, hein. On a vu ça avec les participations en Youth League notamment. Ils peuvent aussi jouer un rôle, on les attend pas forcément, mais ça va être peut-être qu'il y aura un joueur, deux joueurs qui vont éclore justement dans un effectif où il manque des joueurs à certains postes. Donc ça peut être aussi un pari.
L'émission va bientôt toucher à sa fin. D'abord un petit dernier mot au niveau de l'EAB, c'est la mi-temps donc de leur match face à Rennes. Ils sont bien revenus, ils ne sont menés que de 4 points, donc 45-41 pour les Bretons.
Et autre point score, anglais vient de marquer face au Duc d'Angers.
5 minutes de match, ouais.
Donc c'est pas la meilleure nouvelle de la soirée.
Mais tant pis, on a gagné la Coupe de France. Donc
et la Coupe du Monde
grave.
En 2018 et 98.
Ah, rien à voir, mais ok, pourquoi pas. Messieurs, un dernier mot, parce que l'émission va bientôt toucher à sa fin.
Et ben, si tu me demandes un dernier mot, je te dirai le mot sport.
Bah, ça c'est beau, c'est vraiment le mot adéquat pour l'émission. Cédric.
Bah, on va souhaiter une bonne retraite à Tom Brady.
Et oui, d'ailleurs, oui, c'était notre actu.
On en parlera la semaine prochaine, mais voilà, c'était l'actu du jour. Quoi.
Mmh, ouais. On reviendra évidemment longuement là-dessus.
La légende du golf qui quitte les.
Alors. Je crois que tu vas énerver Cédric.
Légende de la NFL, pardon.
Il va avoir un touchdown dans le studio.
Je vais appeler les pompiers de suite et puis voilà. Bon, vous remercie d'avoir été en notre compagnie sur Radio G pour cette super émission de Génération Sport. Merci les gars. Et puis, on se retrouve, comme on vous l'a dit, la semaine prochaine, même jour, même heure. Et puis, on parlera du Super Bowl. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur les ondes de Radio G.